Bonjour frères et sœurs. C'est un bon titre, hein? Jésus est notre roi, mais il est aussi un roi serviteur. Il nous a donné un bon modèle à suivre. Il a dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur, votre esclave. C'est vraiment les rôles renversés, si on peut dire, avec ce qui se passe dans le monde. Habituellement, les grands se font servir. Mais Jésus, lui, il a servi. Il nous a laissé un bon modèle. On a vu ce modèle-là qui a été poussé par le Saint-Esprit dans la première église. Vous savez où était la première église locale? À Jérusalem. Donc après que Jésus est ressuscité et qu'il soit remonté au ciel, 50 jours après, les Juifs fêtaient la Pentecôte. Et c'est là que, comme promis, Jésus a envoyé son Saint-Esprit qui est venu dans le cœur des hommes et des femmes qui ont cru en Jésus, qui ont été sauvés. Et ça a été la formation de la première église locale. Cette Église-là, elle a fait preuve dès le début d'une grande unité. C'est le Saint-Esprit qui les a poussés à faire ça. Tout à coup, naturellement, ils ont voulu être unis. Le Saint-Esprit les avait liés. On lit dans Actes 2, « Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. » Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc Dieu utilisait leur bon témoignage d'amour fraternel pour convaincre d'autres personnes dans la population et sauver des âmes. Et l'Église est devenue très grande. Aujourd'hui, on l'appellerait une « mega church ». Même dans Acte 4, il dit qu'elle est montée à 5000 hommes. Et si on compte les femmes, les enfants, c'est au moins 20 000 personnes qui se réunissaient. 20 000 personnes, vous imaginez? C'est plus que le Centre Bell. Donc, je ne sais pas combien qui rentrent dans le Centre Bell, mais c'est une grande foule. À peu près ça? Ah, bon, ça faisait compétition. Mais ils étaient tous d'un seul cœur. Et l'Église était unie malgré un aussi grand nombre. Dans Acte 4, 32, il dit « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. » Donc, on aurait pu croire que ça allait bien rouler pour toujours, mais il est survenu les premières difficultés. Et ils ont dû s'ajuster. Les premiers problèmes sont survenus et qui mettaient en risque leur unité. Donc, on va lire ensemble Acte 6, versets 1 à 7. Livre des Actes, c'est tout de suite après les quatre évangiles. Chapitre 6. Actes, chapitre 6, verset 1. En ce jour-là, comme les disciples se multipliaient, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors la multitude des disciples et ils dirent, « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis de l'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. Pour nous, nous persévérerons dans la prière et dans le service de la parole ou le ministère de la parole. » Ce discours plut à toute la multitude. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanote, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait. Le nombre des disciples se multipliait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Amen. Donc, c'est un court passage, mais qui est riche en instructions. On voit comme trois étapes d'une résolution de problème. D'abord, au verset 1, le problème est annoncé. Ensuite, 2 à 6, on voit quelle solution qui a été mise en place. Puis, on voit même les résultats après, au verset 7. Donc, comme on disait, cette première église-là, elle est née à Jérusalem, puis elle était formée de Juifs, tous des gens du même peuple, la même race. On aurait pu croire qu'ils allaient bien s'entendre, mais il semble qu'il y avait des inégalités, des injustices. En tout cas, ça a été soulevé par les hellénistes. Ils se sont plaints que leur veuve était négligée dans le service quotidien. Donc, à chaque jour, il y avait une distribution, puis les hellénistes se sont plaints. Qui sont les hellénistes? Le mot helléniste fait référence à la culture grecque. Donc, c'était des Juifs, mais de culture grecque. Donc, ils n'étaient pas nés dans la Palestine. Ils n'étaient pas nés dans la Judée, la Galilée ou même la Samarie. Ils étaient nés à l'extérieur, dans la dispersion, dans la diaspora, les pays des provinces de l'Empire romain de l'époque. Et pourquoi qu'il parle spécifiquement des veuves? Parce que dans la société de l'époque, les personnes qui étaient les plus vulnérables, sans beaucoup de ressources, c'étaient les veuves. Donc, les femmes qui avaient été mariées et que leur mari était décédé, puis souvent le mari décédait avant elles parce que les hommes se mariaient souvent avec des femmes plus jeunes. Donc, ils partaient avant elles. Donc, elles se trouvaient veuves. Et à l'époque, dans beaucoup de régions, elles avaient peu de moyens. Elles n'étaient pas reconnues comme propriétaires même de la maison ou du terrain qui était transféré aux autorités. Donc, elles devaient recevoir de l'aide. Et si elles n'avaient pas directement d'enfants qui pouvaient prendre soin d'elles, elles étaient sans ressources. Leur situation était précaire. Donc, les chrétiens avaient cru bon d'en prendre soin. Et c'est la volonté du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les avait convaincus de la nécessité de prendre soin des veuves. C'est une prescription directe de Jésus. Et le Saint-Esprit les a poussés à prendre soin les uns des autres. On le lit directement dans Actes 4, 34 et 35. Il n'y avait parmi eux aucun indigent, personne qui souffrait de la pauvreté. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, ils apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et ils le déposaient aux pieds des apôtres. Donc, les apôtres qui étaient à la tête de cette église, à la direction, recevaient l'argent de la vente de ceux qui avaient à cœur de vendre une maison, un terrain, et venaient le déposer pour que les apôtres administrent. Et on distribuait à chacun selon qu'ils en avaient besoin. Donc, on déduit qu'à chaque jour, il y avait comme une distribution de nourriture ou autres produits, un peu comme un comptoir alimentaire. Vous imaginez un comptoir alimentaire à chaque jour de la semaine? C'est du travail, mais en plus, ils n'étaient pas encore organisés. Donc, il y avait des injustices, là. Et que ce soit volontairement ou par négligence, ça se peut qu'il y en a qui étaient malfaisants volontairement, mais c'est peut-être juste par négligence que les veuves du groupe des Juifs qui venaient des pays grecs, là, les hellénistes, étaient négligées. Donc, elles recevaient moins ou parfois on oubliait même de les servir ou on les mettait de côté. On priorisait les veuves des Juifs nés à la Palestine, qu'ils appelaient les Hébreux. Donc, il y avait comme une discrimination, puis une injustice, et la réaction des Juifs hellénistes, elle est compréhensible. Peut-être qu'on aurait réagi de la même manière. On se serait porté à la défense. Comment ça se fait que nos veuves sont négligées comme ça? Mais ils ont murmuré. Le mot est fort, hein, ce mot-là, murmurer, dans la Bible. Ça se trouve dans l'Ancien Testament aussi. Le peuple d'Israël s'est souvent rendu coupable de murmurer dans le désert. Et c'est arrivé que des chrétiens dans le Nouveau Testament se sont rendus coupables de murmurer aussi. Donc, même si leurs revendications étaient légitimes, leur solution n'était pas la bonne. Ils chialaient, si on peut dire. Et lorsqu'on chiale, lorsqu'on se plaint, habituellement, on ne se plaint pas juste dans le vide, on se plaint de quelqu'un. Et ultimement, même si on ne vise personne, on se plaint de Dieu qui permet cette situation-là. Donc, murmurer, c'est jamais une bonne chose. Mais j'en suis coupable souvent. Donc, ils ont murmuré, ce n'était pas une bonne chose, puis on voit que ça risquait de nuire à l'unité de l'Église. Ça risquait même une division. Vous imaginez, c'est dans cette première Église-là qu'il y avait un bon témoignage auprès de la population. S'il y avait une guerre, une division, même de la violence, combien ça aurait terni leur témoignage? Ça aurait vraiment ennui à leur témoignage auprès de la population. Jésus a dit, c'est à votre amour fraternel qu'on va reconnaître que vous êtes vraiment mes disciples. Et par votre unité même, ils vont croire que je viens vraiment du Père. Donc, l'unité de l'Église est très précieuse, surtout dans le contexte de l'évangélisation. Mais cette inégalité-là qu'il y a eu par rapport au service, la distribution, ça a fait naître le besoin de mieux s'organiser, de prendre des mesures pour qu'il n'y en ait plus d'injustice. C'est souvent comme ça que va naître un ministère dans l'Église. On voit un besoin qui n'est pas comblé ou une tâche qui est mal organisée, puis on sent le désir, tout à coup, le Saint-Esprit nous met à cœur de nous investir. On est la bonne personne au bon moment pour régler ce problème-là, ou peut-être avec d'autres. Mais on voit un besoin, puis on y pallie. Mais voyons quelles solutions qu'ils ont mis en place, versets 2 à 6. Donc, comme on l'a vu plus tôt, ceux qui recevaient l'argent, il y a donc les ressources pour acheter les provisions, ou même peut-être qu'ils pouvaient donner un montant à quelqu'un pour qu'ils puissent aller s'acheter ce dont ils avaient besoin. Ceux qui recevaient l'argent, c'est les apôtres, les 12 apôtres. Donc, ils étaient sûrement les mieux placés pour organiser toute la distribution, organiser le service aux tables. Sûrement qu'ils étaient les plus organisés. Ils savaient vraiment quelles étaient les bonnes priorités pour l'Église. Mais ils ont eu la conviction que ça ne serait pas bon. Vous imaginez, il y avait peut-être 20 000 personnes. Organiser tout ça, ça les aurait occupés comme un travail à temps plein. Et ils ont réalisé que s'ils s'embarquaient là-dedans, ils auraient été forcés de négliger le ministère de la parole de Dieu, le ministère de la Bible. Puis on voit qu'à l'époque, le ministère des Écritures servait à deux choses. D'abord, enseigner l'Église, grandir dans la connaissance de la volonté de Dieu, mais aussi propager la parole de Dieu, évangéliser. Et tout ça a été soutenu par la prière, donc ça demandait du temps pour faire ça. Et ils auraient été forcés de négliger ça. Et c'était leur mandat principal aux apôtres. C'est pour ça qu'on les appelle des apôtres, d'ailleurs, ceux qui sont envoyés par Jésus. Et dans leur tâche, finalement, ils se trouvent à être les premiers pasteurs de l'Église, les premiers bergers du troupeau. Donc, ils convoquent toute l'Assemblée. C'est intéressant, ils ne font pas juste parler à ceux qui avaient critiqué ou aux autres qui étaient blâmés, peut-être, mais ils convoquent toute l'Assemblée, ils leur exposent la situation. Ils expliquent d'abord que ça ne peut pas être eux qui prennent en charge cette responsabilité-là. Sinon, ils vont devoir négliger leur responsabilité. Donc, ils proposent à l'Assemblée de choisir eux-mêmes 7 hommes. Pourquoi 7? Je ne sais pas, mais on voit souvent le chiffre 7 dans la Bible qui montre un chiffre symbolique, sacré. Mais ils ont eu la conviction que ça prenait 7 hommes pour faire le travail. Et ils vont les charger d'organiser, de superviser les distributions. Puis eux, ils vont pouvoir rester concentrés sur la prière, le ministère de la parole. On réalise que ce n'est pas que le service aux tables n'était pas de trop bon niveau pour les apôtres. C'est pas que les apôtres ont dit, là, c'est pas à nous de faire ça, là. On va pas s'abaisser à faire le service aux tables. Le texte ne présente vraiment pas cette tâche-là comme étant de plus bas niveau, plus basse classe, ou moins spirituelle. Au contraire, je vous invite à observer c'est quoi les critères de sélection que les apôtres ont établis pour choisir les responsables. D'abord, ils devaient avoir un bon témoignage. Donc, parmi tous ceux dans l'Église qui auraient pu être habilités à organiser ça, là, il fallait en choisir, qui avaient un bon témoignage. Donc, rien de scandaleux dans leur vie. Et là, toute la multitude pouvait en témoigner. C'est vrai, il n'y a rien de scandaleux dans la vie de cet homme-là. Donc, irréprochables, si on peut dire. Qui ont fait leur preuve même dans leur vie. Ce n'est pas un nouveau que personne ne connaît. Il a fait ses preuves, on sait qu'il travaille bien. Donc, il a même fait ses preuves dans sa vie personnelle, dans sa maison, avec sa famille. Il a une bonne réputation. Puis on comprend s'il a un bon témoignage dans le contexte où ils évangélisaient, c'est qu'il a un bon témoignage même auprès des non-croyants, ceux qui les connaissent. Ils savent que ce sont des hommes fidèles, intègres, de bons modèles à suivre, irréprochables. Une deuxième caractéristique, une deuxième qualification demandée, c'est qu'ils soient remplis de l'Esprit. Pas évident, comment on fait pour savoir qu'une personne a le Saint-Esprit en elle? Mais si tous pouvaient témoigner, c'est vrai, c'est un homme rempli de l'Esprit, c'est parce que c'était visible. Comment ça se voit, quelqu'un qui est rempli de l'Esprit? Bien, d'abord par sa foi, une foi inébranlable en Dieu. Il arrive n'importe quoi, il sait que Dieu est au contrôle, il lui fait confiance. Son réflexe, c'est de prier, de le consulter, d'être soumis à sa volonté. Donc, la foi démontre la santé spirituelle, si on peut dire, qu'on est rempli de l'Esprit. Mais il y a des signes aussi au niveau du caractère. Galates 5, 22 décrit quel est le fruit de l'Esprit. L'Esprit qui est invisible, mais porte des fruits qui sont visibles et que tous peuvent voir, attester. D'abord, l'amour. Donc, ces hommes-là devaient être connus pour leur amour pour leurs frères et sœurs. La capacité de pardonner, de voir aux intérêts des autres avant les leurs. La joie. C'est le Saint-Esprit qui produit ça. Même dans des temps difficiles, il y a une joie qui demeure, la joie de savoir qu'on est un enfant de Dieu, qu'on est sauvé. Ça montre la sincérité. La paix. On est en paix, peu importe ce qui se passe, puis on est des artisans de paix. On produit la paix où on se trouve. La patience. Puis organiser le service aux tables avec des gens qui murmuraient, ça prenait une bonne dose de patience. C'est le Saint-Esprit qui produit ça. La bonté, la bienveillance, de voir au bien des autres. La fidélité. La douceur. La maîtrise de soi. Toutes des qualités produites par le Saint-Esprit qui nous transforme et nous rend semblables à Jésus lui-même. Donc, bon témoignage, rempli de l'Esprit et rempli de sagesse. C'est sûr que c'est le Saint-Esprit qui produit ça aussi. C'est la sagesse qui vient d'en haut, pas la sagesse qu'on gagne par la philosophie ou simplement par l'expérience, mais une sagesse de Dieu, une sagesse qui s'acquiert par la connaissance de Dieu, par la persévérance à marcher avec le Seigneur, qu'ils devaient être réputés pour être des hommes de bons conseils, qui prennent de bonnes décisions, qui ont un bon discernement, qui sont sages, qui sont humbles. C'est une sagesse qui est pleine d'humilité. Mais aussi qui sont doués, qui sont habilités pour cette tâche-là. C'est intéressant dans la Bible, le mot sagesse est souvent synonyme d'une habileté. Lorsque des gens ont été sélectionnés pour construire le tabernacle dans le désert, ça dit qu'ils avaient la sagesse pour faire tel ou tel truc, là, pour travailler le bois, travailler le métal. Donc, la sagesse est parfois utilisée dans un sens synonyme d'une compétence, d'une habileté, mais qui vraiment vient de Dieu. C'est un don du Saint-Esprit, un don spirituel pour cette tâche-là. Donc, ça devait être évident pour tous que ces sept hommes-là sélectionnés étaient capables, avaient reçu une capacité par Dieu, par le Saint-Esprit, pour faire cette tâche. C'est des critères quand même qui sont élevés, mais ça montre l'importance de la tâche. Pourtant, c'est simplement organisationnel. Mais on voit que c'est spirituel. Il n'y a pas de tâches dans l'Église qui ne sont pas spirituelles. Et toutes servent à maintenir l'unité, à faire grandir l'Église, à l'édification, au témoignage, à l'évangélisation. Cette tâche-là, elle est appelée un ministère, le ministère des tables ou le service aux tables. C'est deux mots en français qui servent à traduire le mot grec dans le texte original, le mot « diaconia », qui est un service. D'où vient le mot « diacre » ou « diaconesse ». Ici, à Rosemont, on les appelle des responsables ou des serviteurs responsables de ministère. Ce sont des diacres. Mais on doit se souvenir que pour Jésus, quelqu'un qui a une responsabilité dans l'Église, il est un serviteur. C'est un service qu'il rend à l'Assemblée. Ce n'est pas des rangs hiérarchiques d'autorité où est-ce qu'on gravit les échelons, là, comme dans si on fait carrière dans une entreprise puis on veut monter vice-boss puis boss de l'entreprise. Dans une église, en fait, lorsqu'on a une responsabilité, c'est qu'on est chargé d'une tâche, un service. C'est intéressant aussi que même les apôtres, lorsqu'ils parlent de leur tâche en tant que dirigeants de l'église, ils parlent de leur tâche qui est aussi un ministère, un service. C'est le même mot, c'est diaconia. Eux-mêmes sont des serviteurs de l'église en servant dans les ministères de prière et de parole de Dieu. Donc, les apôtres proposent ça à l'Assemblée et elle est unanime. Autant les Hébreux que les Hellénistes, ils sont tous d'accord, oui, on va faire ça. On voit vraiment que la direction du Saint-Esprit ici, qui convainc, qui permet que tous soient unanimes, d'un seul cœur, d'une même pensée. Et l'Assemblée choisit sept hommes dont deux qu'on connaît plus tard dans la suite du récit, Étienne, plein de foi et d'Esprit Saint, qui sera un évangéliste et même le premier martyr de l'Église. Il va être lapidé par les Juifs inconvertis, incrédules. Donc, il va servir jusqu'à son dernier souffle, mais on voit qu'il était un évangéliste et pourtant, il a été recruté pour organiser le service aux tables. Philippe aussi, évangéliste. Donc, les sept font l'unanimité, ce sont des hommes de Dieu. Et l'Assemblée présente ces hommes-là aux apôtres qui prient pour eux et leur imposent les mains. Pas pour leur transférer le Saint-Esprit. Ils l'ont déjà, ils sont réputés pour être remplis de l'Esprit, mais pour les consacrer à la tâche. C'est souvent, imposer les mains, c'est plusieurs fois dans le Nouveau Testament, c'est un signe que la personne, elle est consacrée. On la remet à la grâce de Dieu, mais on lui confie une tâche devant Dieu et elle l'accepte. Et dans un sens, ces sept hommes deviennent les premiers diacres de l'Église. Ils deviennent le modèle par la suite de tous les diacres et les diaconesses qui vont servir dans l'Église. Puis les apôtres deviennent le modèle aussi des pasteurs qui vont servir dans l'Église. Les anciens, les pasteurs ou les évêques, c'est trois synonymes. C'est le même groupe, c'est ceux qui font paître le troupeau de Dieu. Et comme Jésus a prescrit aux apôtres de rester attachés à la prière et au ministère de la parole, il demande la même chose aux pasteurs, de tenir ça en priorité. Donc, comme on l'a dit, c'est pas parce que les autres responsabilités dans l'Église sont moins spirituelles, parce que les critères pour les autres tâches dans l'Église sont élevés. C'est intéressant même de noter que les critères pour être un diacre ou une diaconesse dans 1 Timothée 3 sont pratiquement les mêmes critères pour être un ancien. La seule différence, c'est que pour être un ancien, il est exigé qu'il soit capable d'enseigner les Écritures. Mais le reste, là, dans les deux cas, que ce soit pour être un diacre, un responsable de ministère, ou un ancien, un pasteur, c'est le même caractère qui est demandé, la même bonne réputation, le même bon témoignage, même attitude. Et je vais vous lire 1 Timothée 3, 8 à 13, qui décrit les caractéristiques demandées des diacres. Donc, il est demandé, et vous pouvez tourner, si vous voulez, dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 8. Et on essaie de veiller à cela lorsqu'on regarde tous ceux qui se proposent pour servir dans les ministères, dans l'Église, ici à Rosemont. Les anciens se penchent sur la question, puis on demande même aux différents responsables dans l'Église qu'est-ce qu'ils pensent de telle ou telle personne, et finalement, c'est toute l'Assemblée qui le confirme. On essaie de suivre vraiment ces indications ici, dans 1 Timothée 3, les qualifications qui sont requises. Les diacres, pareillement, c'est intéressant parce qu'ils viennent donner les qualifications des anciens. Mais continuons avec les diacres, donc eux aussi doivent être respectables. Là, c'est peut-être pas les mêmes mots que vous avez dans votre version, mais ils doivent être respectables, éloignés de la duplicité. Ils n'ont pas des doubles visages, là. Ils ne tombent pas dans la politique, ils vont dire une chose à quelqu'un, puis ils disent le contraire à quelqu'un d'autre. On peut leur faire confiance, ils n'ont pas une double face. Ils n'ont pas des intérêts cachés ou un agenda caché. Éloignés des excès de vin. Donc, ils ne tombent pas dans les excès de vin ou de table ou de toute chose qu'on peut consommer dans ce monde ici, là. Ils ne tombent pas dans l'excès. Les gains honteux, ils s'éloignent de ça. Donc, ils ne sont pas là pour essayer de faire de l'argent, surtout pas avec leur service à l'Église. Et ils conservent le ministère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les mette d'abord à l'épreuve et qu'ils exercent ensuite le diaconat, s'ils sont sans reproche. On voit vraiment que la barre est haute. Que les femmes de même, donc ici, parle des diaconesses en particulier, soient respectables, non médisantes. Donc, elles ne doivent pas être connues pour être des commères là, qui vont parler dans le dos des gens. Être sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme, donc qu'ils montrent leur fidélité dans leur couple, bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui ont bien exercé le diaconat s'acquièrent un rang honorable. Non pas qu'ils cherchent les honneurs, Mais cette tâche-là, le service, c'est honorable. Comme Jésus l'a dit, ceux qui servent sont grands et Dieu honore ceux qui servent humblement. Donc, ils s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Christ Jésus. Donc, notre service dans l'Église contribue à nous garder dans l'assurance, contribue même à ce qu'on reste persévérant jusqu'à la fin. Il y a un effet bénéfique pour nous-mêmes. On va persévérer jusqu'à la fin si on sert nos frères et sœurs. Donc, ici, à Rosemont, comme je disais, les serviteurs responsables, on essaie de veiller à ce que chacun soit qualifié. Et s'il arrive que l'un des responsables ou l'un des anciens même soit, se trouve disqualifié à cause d'un problème dans sa vie, bien, on va lui demander d'être en pause jusqu'à ce qu'il ait rétabli la situation. Le seul critère supplémentaire pour les pasteurs, les anciens, c'est la capacité d'enseigner les Écritures. Le même caractère qui est demandé, mais pour les anciens, il y a une capacité spécifique qui est demandée, c'est qu'ils doivent pouvoir étudier les Écritures, déceler les fausses doctrines, protéger l'Assemblée contre les faux enseignements, les sectes, puis enseigner correctement les Écritures. Lorsqu'ils évangélisent, c'est la parole qu'ils vont mettre de l'avant. C'est correct que les pasteurs aient plusieurs responsabilités. Ils peuvent servir dans différents ministères dans l'Église, mais sans jamais négliger la prière et le ministère de tout ce qui entoure la Bible. Pourquoi? Parce que c'est primordial pour l'Église. L'Église peut faire une foule d'activités, mais ne doit jamais négliger la prière et le ministère de la parole. S'il arrive même que certains ministères doivent être mis en pause parce que le besoin n'est plus là ou il n'y a plus de ressources, même s'il arrivait que tous les ministères dans l'Église doivent être mis en pause à cause de la persécution, s'il y a une chose qui doit rester, c'est la prière et l'étude et la prédication de la parole de Dieu. Sinon, on n'est plus une Église. Ça a l'air évident, mais dans l'histoire, là, c'est arrivé des Églises qui, tout à coup, se sont trouvées très occupées par exemple, par l'aide humanitaire. Tellement affairés à faire du travail humanitaire que même ils devaient employer des non-croyants avec eux, puis ça a pris tellement d'ampleur qu'ils n'avaient même plus le temps d'étudier la parole de Dieu ou de prier, et ils sont devenus finalement un organisme d'aide humanitaire. Ils n'étaient plus une Église, même si peut-être ils portent encore le nom Église. Au cœur de l'Église, c'est la parole de Dieu, c'est notre guide. Si Jésus est notre chef, comment il nous dirige? Bien, c'est par sa parole. Et comment il rend possible la mission d'annoncer l'Évangile? C'est par la prière. C'est vraiment au cœur de la vie d'Église, ce qui ne doit pas être négligé. Et pour s'en assurer, bien, Jésus demande à ceux qui sont responsables de paître le troupeau qu'eux-mêmes vaquent à la prière et au ministère de la parole. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont mis une solution où est-ce que les apôtres ont pu continuer d'évangéliser, d'enseigner, de prier pour que Dieu ouvre des portes. Et ils ont mieux organisé le service dans l'Église. Et qu'est-ce que ça a donné comme résultat? L'unité de l'Église a été préservée. On ne lit pas dans le texte qu'ils se sont divisés, qu'il y a eu une querelle, que leur témoignage a été entaché. Donc, cet esprit les a conduits là, à mieux s'organiser et l'unité a été préservée. Mais aussi, la parole a continué de porter des fruits. Le verset 7 dit « La parole de Dieu se répandait, le nombre des disciples se multipliait beaucoup à Jérusalem, une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. » Donc, cette parole s'est répandue, beaucoup de Juifs ont cru, donc l'Église a continué même de s'accroître, jusqu'à on ne sait pas quel nombre, et même une grande foule de sacrificateurs. Les sacrificateurs, finalement, c'était les chefs religieux, là, les Juifs. Même eux, une grande foule s'est convertie et est entrée dans l'Église, a cru en Jésus, a été sauvée. Le livre des Actes va confirmer à plusieurs reprises, si vous le lisez, que c'est le Saint-Esprit qui permet tout ça. C'est presque les actes du Saint-Esprit. Mais il le fait par le travail des chrétiens lorsqu'ils suivent sa direction. Lorsqu'ils veillent à ce que leurs responsables sont remplis, soumis au Saint-Esprit. C'est ce qu'ils ont fait ici. Le Saint-Esprit a permis encore une vague de conversion et la croissance, tout à la gloire de Dieu. C'est une leçon pour nous à ne pas oublier. Notre travail est efficace pour Dieu si nous veillons à garder l'unité de l'Église. Et lorsqu'on voit quelque chose qui risque d'entacher, de mettre en péril notre unité, ça devient tout à coup une priorité, une chose à régler, pas quelque chose qu'on laisse traîner longtemps. C'est même un truc que je dirais de quand est-ce qu'on doit intervenir, parce que l'amour couvre une multitude de péchés. On voit nos frères qui peuvent peut-être nous offenser ou pécher contre nous, ou ça arrive nous qu'on pêche contre nos frères et sœurs aussi, puis par amour, on couvre une multitude de péchés. Mais lorsque telle ou telle action vient briser l'unité, on n'est plus capable de se parler, ou on voit des frères qui, la chicane est en train de poigner, là, il faut intervenir. Ça devient priorité numéro un de mieux s'organiser pour que ça n'arrive plus, changer la situation, stopper le murmure. Donc, ça demande parfois de que des gens se retroussent les manches, ils servent plus, donnent un coup pour travailler, pour réparer la situation. Donc, notre travail pour Dieu va être efficace si on veille à l'unité, pour ne pas entacher notre témoignage. Si on respecte aussi la priorité qui est donnée à l'Église, du service, de la prière et de la parole de Dieu. C'est là que Dieu va bénir notre travail. Donc, il faut s'assurer que dans tout le travail qu'on fait, qu'il y a une part, qu'il y a une portion majeure qui est laissée pour la prière et l'étude de la parole de Dieu, la proclamation de l'Évangile. Ça se reflète entre autres dans notre budget. Ça peut être étonnant pour quelqu'un de l'extérieur qui regarde comment on dépense l'argent ici à l'Église de Rosemont. Il y a une grosse portion, c'est pour les salaires des pasteurs, pour l'évangélisation, pour les missionnaires. C'est un peu débalancé. Quand on vient de l'extérieur, on peut avoir cette impression-là, mais ça montre nos priorités. Et c'est une bonne chose. Et Dieu bénit. Et troisièmement, notre travail sera efficace si nous respectons les critères de sélection de ceux qui servent dans l'Église, ceux qui sont reconnus, ceux à qui on, c'est comme qu'on impose nos mains pour qu'ils servent dans l'Église. Il faut faire très attention. Si on est négligent, nonchalant, que n'importe qui peut faire n'importe quel poste, on va dériver, il va arriver des problèmes. Donc, on respecte les critères de sélection pour tous ceux qui servent comme responsables, les diacres, diaconesses, les anciens aussi. Puis, on est censé régulièrement de faire réévaluer chacun des anciens. On arrive bientôt à cet exercice-là, où on invite l'Assemblée à réévaluer tous les anciens en poste. Le caractère, selon Dieu, c'est important. Aussi important, même plus important que la compétence, je dirais, de refléter le caractère de Jésus. Si on a le choix entre deux personnes, même si l'un est moins compétent, mais il a le caractère de Jésus, il est rempli du Saint-Esprit, c'est lui le bon candidat. Donc, veillons chacun de nous, c'est accessible à chacun de nous, là, de travailler et de ressembler à Jésus, de laisser le Saint-Esprit nous transformer. Colossiens 3, 17 dit, « Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. » Amen.